Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité, Catherine, un chiffre 104, c'est le nombre de manifestants contre la loi travail qui saisissent le défenseur des droits pour dénoncer les violences policières qu'ils ont subies. On l'apprend à la veille d'une nouvelle mobilisation nationale. Le sujet du jour, le Dalai Lama est en France jusqu'au 18 septembre et cependant, aucun officiel ne le recevra. Nous évoquerons le bouddhisme, la question tibétaine et la politique extérieure chinoise.
Et à 7h15, 7h16, la question du jour, que peut l'État dans le dossier Alstom, Guillaume ?
Eh oui, la quasi fermeture du site historique d'Alstom à Belfort, vécu comme un nouveau Florange. À 8 mois de la présidentielle, on y revient aussi dans ce journal, Catherine.
Et nous verrons si le parallèle Alstom-Florange est si pertinent que cela. À suivre également la fermeture de la centrale de Fessenheim au cœur d'un comité central d'entreprise aujourd'hui. Une fermeture qui ne passe pas auprès des syndicats. Le silence des armes en Syrie, mais l'aide humanitaire se fait toujours attendre. Nous irons à Alep dans ce journal.
Et à 7h12, le billet éco, Marie Viennot dressera le bilan du plan Juncker avec évidemment une mise en perspective de celui-ci.
À la veille d'une nouvelle manifestation contre la loi travail, la 14e depuis le mois de mars, avec des appels à la grève lancés dans la fonction publique, à la SNCF, à la RATP, chez Air France, à la Poste ou encore chez les intermittents du spectacle, on apprend qu'une centaine de personnes descendues dans la rue au printemps dernier ont saisi le défenseur des droits pour dénoncer des violences policières. Les services de Jacques Toubon disent étudier le dossier. Ils sont compétents pour les questions de déontologie de la sécurité. Cassé par un tir de flashball, jambe fracturée par un jet de grenade, point de suture causé par un coup de matraque ou simple gazage à la bombe lacrymogène. Ces témoignages racontent à leur manière 4 mois de contestation sous haute tension, Sarah Guibaudeau.
Il n'en garde qu'une petite cicatrice. Arthur, 16 ans, n'est pourtant pas beau à voir quand il arrive aux urgences le 9 avril. Place de la Nation, un tir de flashball lui a fracturé le nez.
J'étais pas loin des policiers. Enfin, j'étais là en manifestant pacifiste. Et à un moment, j'ai senti que j'avais une partie de ma tête comme anesthésiée. J'étais en sang, j'avais la tête gonflée, je ressemblais plus à rien.
Très engagé contre la loi travail, Arthur était venu ce samedi avec sa sœur et sa mère, Frédéric, très choqué.
On s'est retrouvés un peu bloqués parce que des gaz lacrymaux dans tous les sens. J'ai eu le sentiment qu'il y avait un usage complètement disproportionné de la force.
De son côté, le ministre de l'Intérieur déplorait en juin, 550 blessés au sein des forces de l'ordre et assurait avoir donné des consignes pour un usage proportionné de la force. Porter plainte contre la police, à quoi bon, se disait Arthur, mais saisir le défenseur des droits, avec sa mère, ils n'ont pas hésité.
Ça permet plus de montrer aux gens les agissements des forces de l'ordre et ce qui se passe vraiment dans les manifestations.
Moi, vu mon âge, j'ai déjà vu des manifs avant, j'ai participé à quelques-unes et l'ambiance bon enfant des manifs a complètement disparu. Pour moi, des gamins qui se font taper dessus à 15 ans alors qu'ils font leur première manif, je trouve pas ça normal.
Arthur a fait sa rentrée en terminale. Il retournera manifester demain.
Sarah Guibaudeau pour France Culture. Autre manifestation, mais aujourd'hui cette fois, pour dénoncer la dégradation des conditions de travail à l'hôpital. La Coordination Nationale Infirmière, l'un des principaux syndicats de la profession, appelle à une grève nationale aujourd'hui des infirmiers, mais également de tous les personnels paramédicaux, kinés, aides-soignants ou encore auxiliaires de puériculture. Le malaise des soignants reflété, selon la coordination syndicale, par le suicide de 5 infirmiers cet été. Des discussions sont finalement en cours dans le dossier Alstom et c'est peut-être une première victoire de l'exécutif face à la direction du constructeur ferroviaire. Une semaine après l'annonce d'Alstom d'arrêter sa production de locomotives de Belfort pour la transférer en Alsace d'ici 2018, Manuel Valls a voulu rassurer hier les quelques 400 salariés belfortins du groupe. Ils peuvent avoir confiance dans l'action du gouvernement pour pérenniser le site, l'emploi et l'avenir d'Alstom, a déclaré le Premier ministre. Et en fin de journée, la direction du groupe a donc indiqué qu'aucune décision ne serait prise avant la fin des négociations. Alstom qui s'invite dans la campagne pour l'élection présidentielle, un peu comme Florange en 2012. Mais faut-il comparer les deux dossiers industriels ? Non, il y a beaucoup de différences. D'après Xavier Lecoq, délégué national du syndicat CFE-CGC, il siège également au Conseil national de l'industrie.
Alstom-Florange, il y a des très grandes différences. L'État est actionnaire d'Alstom, l'État au travers de la SNCF, de la RATP, les pouvoirs publics au travers des collectivités territoriales sont des clients d'Alstom, alors que pas du tout clients de la sidérurgie. L'État pouvait pas jouer sur le carnet de commandes d'ArcelorMittal. Et d'ailleurs, on voit qu'après l'annonce du PDG d'Alstom, les choses bougent. On voit bien que des appels d'offres vont être relancés, accélérés, anticipés. Le carnet de commandes d'Alstom en matière de locomotives, de trains, était connu comme ayant un point faible à l'horizon 2018-2020. Et je pense que le PDG d'Alstom pousse les pouvoirs publics, pousse le gouvernement à réagir, à anticiper. Et le calendrier électoral est très favorable pour aider Alstom à remplir son carnet de commandes de ses usines françaises.
Xavier Lecoq, délégué national du syndicat CFE-CGC, il était interrogé par Cécile Soulet de France Bleu Lorraine-Nord. C'était une promesse du candidat Hollande en 2012, fermer Fessenheim, la doyenne des centrales nucléaires françaises située dans le Haut-Rhin. Arrêt définitif fixé à l'horizon 2018. L'accord doit être présenté aujourd'hui pour consultation au comité central d'entreprise. Mais les quatre syndicats représentatifs de l'électricien, la CGT, la CFE-CGC, la CFDT et FO, ont tous déposé un préavis de grève. Ils jugent cette fermeture scandaleuse, Annabelle Grelier.
Une aberration industrielle, économique, sociale et climatique. Tous les syndicats d'EDF ont pour une fois tous les mêmes arguments pour dénoncer la fermeture de la doyenne des centrales nucléaires françaises. Selon eux, Fessenheim n'est pas dangereuse, les gros travaux nécessaires ont été réalisés, le rapport de l'autorité de sécurité nucléaire est bon, preuve en est, le réacteur numéro 2, à l'arrêt depuis juin, redémarrera avant fin mars. En revanche, sa fermeture provoquerait une catastrophe sociale. 2200 emplois directs et des sous-traitants. De plus, les modalités d'indemnisation prévues par l'État, une enveloppe de 96 millions d'euros pour la reconversion des salariés, leur paraît ridicule. La CGT, syndicat majoritaire chez EDF, compte réclamer une expertise sur l'accord signé entre l'État et la direction en août dernier. Un accord qui, selon le ministère de l'Énergie, prévoit une indemnisation par étapes avec un premier versement au moment de l'arrêt de la centrale et des étapes ultérieures en fonction de plusieurs paramètres, dont le prix de l'énergie, dans les années suivant la fermeture. Une enveloppe au total de 400 millions d'euros. Mais pour les syndicats, cette fermeture ne passe pas, ni au nom de la sécurité, pas plus qu'au nom de l'écologie, quand on sait que la France continue de vendre des centrales nucléaires à l'étranger, et notamment en Grande-Bretagne, avec le projet Hinkley Point, contre lequel d'ailleurs ils sont opposés. Où est la cohérence de ce gouvernement ? S'interroge la CFE-CGC. L'accord sera présenté aujourd'hui pour consultation au CCE qui devra rendre son avis avant fin octobre.
7h07 sur France Culture, la suite du journal Catherine Dutu. Shimon Peres, l'ancien Premier ministre et président israélien, est placé dans un coma artificiel depuis hier.
Dans un état stable mais grave, le prix Nobel de la paix a été hospitalisé d'urgence à la suite d'un accident vasculaire cérébral majeur. Et c'est toute la classe politique israélienne qui lui a envoyé des messages de prompt rétablissement. Shimon Peres, 93 ans, le dernier des pères fondateurs de l'État d'Israël, encore en vie, l'un des grands artisans des accords d'Oslo, synonyme d'espoir de paix avec les Palestiniens. Espoir aujourd'hui mal en point. Des violences isolées, mais une baisse significative des tensions. C'est en ces termes que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie a salué la trêve entamée depuis lundi soir. Un cessez-le-feu qui semble plutôt tenir, mais l'aide humanitaire tarde à parvenir aux civils syriens. Notre correspondant dans la région a pu joindre un habitant des quartiers rebelles d'Alep, totalement assiégé par les forces du régime de Bachar al-Assad. Son témoignage entre espoir et prudence, recueillie par Omar Waman.
C'est un calme précaire qui s'est installé dans les quartiers rebelles d'Alep où les habitants profitent des premiers instants de répit depuis des mois. Rami est un jeune activiste, il répond via Skype.
La situation est plutôt calme, les gens commencent à sortir. Dehors, il y a des enfants qui jouent au football, mais on a entendu des tirs d'artillerie. Il y a eu quelques accrochages dans plusieurs endroits, mais pas de frappes aériennes. Il n'y a pas d'avion dans le ciel ni d'hélicoptère.
Et si les armes se sont tues, l'aide humanitaire promise se fait en revanche toujours attendre.
Non, nous n'avons rien vu arriver. Aucune aide humanitaire n'est parvenue à Alep pour l'instant. Nous attendons avec impatience ces convois. Nous manquons de beaucoup de choses, de médicaments, de carburant, de légumes, de fruits, de viande, tout ce qui permettrait un retour à la vie normale.
Et un retour à la vie normale passe également par la levée du siège. Au cœur des négociations, la route du Castello, un axe stratégique contrôlé par les forces du régime de Bachar el-Assad.
J'attends avec impatience que la route du Castello soit démilitarisée, afin que les gens puissent sortir et entrer librement, pour que nous puissions nous ravitailler. Envoyer des convois d'aide humanitaire, cela ne suffit pas. Nous voulons la levée du siège le plus rapidement possible.
Fragile, mais pour l'instant globalement respectée, cette trêve nourrit tous les espoirs.
Et l'arrêt des combats en Syrie est survenu le jour où le nombre de morts a dépassé les 300 000, dont près de 87 000 civils, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'intervention militaire de la Grande-Bretagne en Libye en 2011 aux côtés de la France a été lancée à partir d'une interprétation erronée des renseignements disponibles. Elle a également accéléré l'effondrement politique et économique de ce pays. C'est ce qu'affirment aujourd'hui des députés britanniques dans un rapport accablant pour David Cameron, alors Premier ministre, et pour la France, à l'époque présidée par Nicolas Sarkozy. La Corée du Nord, dévastée par des inondations, 133 personnes au moins ont péri, 395 autres sont portés disparus au nord-est du pays, dans la zone frontalière avec la Chine. Mais difficile d'estimer l'ampleur réelle de cette catastrophe, car comme à son habitude, Pyongyang livre peu d'informations et l'accès des agences humanitaires aux zones sinistrées est très contrôlé. La correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias.
Des dizaines de milliers de maisons effondrées, des chemins de fer, routes, réseaux électriques, usines, fermes, détruits ou submergés, annonce l'agence de presse nord-coréenne. Le régime fait état de 133 morts et 395 disparus, un chiffre relayé par l'ONU qui estime que 140 000 nord-coréens ont besoin d'une assistance d'urgence. Des travailleurs humanitaires de l'ONU, des ONG et de la Croix-Rouge ont été autorisés à se rendre sur place. Mais ce sont des visites extrêmement contrôlées, les deux zones les plus affectées reste interdite d'accès par les autorités. Il est donc possible que le régime, qui manque de devises et qui a besoin d'aide internationale, exagère l'étendue des dégâts pour convaincre des bailleurs de fonds qui sont de plus en plus réticents à aider un pays paria qui consacre ses maigres ressources à son programme nucléaire plutôt qu'à sa population. Mais Pyongyang pourrait aussi amoindrir le bilan humain pour ne pas donner l'image d'un État incapable de protéger son peuple. Le Daily NK, un site internet sud-coréen qui possède un réseau d'informateurs au nord, considère ainsi que le nombre de victimes des inondations est sans doute beaucoup plus élevé. En raison des pénuries alimentaires chroniques, les agriculteurs nord-coréens cultivent les montagnes jusqu'à leur sommet, ce qui provoque une déforestation sévère qui aggrave les inondations en cas de forte pluie.
Frédéric Ojardias à Séoul pour France Culture. Aux États-Unis, Barack Obama a fait campagne hier à Philadelphie pour Hillary Clinton. La candidate démocrate revient demain dans la campagne pour la Maison-Blanche. Après un repos forcé pour cause de pneumonie, on y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce mercredi 14 septembre, toujours très chaud, l'Aveyron, la Lozère, le Gard et l'Hérault sont en vigilance orange pour de violents orages. 120 000 foyers sont d'ailleurs encore privés d'électricité ce matin à cause des orages qui ont traversé le pays hier des Pyrénées au Sud-Manche. Des averses et des orages encore attendus aujourd'hui sur une grande partie du pays. Les températures maximales seront comprises entre 25 et 33 degrés, Guillaume Erner.